Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Santé Mario!
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Non, fin mai, pendant Roland-Garros, j'étais complètement clandestin. J'étais... Bon, il y avait des nuits entières. Des fois, j'avais nulle part à aller dormir. Ouais. Donc, je marchais toute la nuit dans les rues de Paris. Ouais. J'ai jamais dormi par terre dans la rue. Parce que je me suis dit, si je fais ça...
Vous marchiez.
Je marchais. Toute la nuit, je marchais. Ouais. Et puis, le lendemain, j'étais le matin à la préfecture pour supplier les gens, pour me donner des visa pour rester. Et puis l'après-midi, j'étais à Roland-Garros en essayant de trouver un club dans lequel je pouvais éventuellement jouer les championnats par équipe. Et puis,
Après, vous êtes devenu une star du tennis, mais vous n'êtes jamais devenu une superstar parce que vous n'avez pas l'instinct du tueur, vous n'avez pas le killer instinct.
Vous savez, moi, j'ai toujours privilégié le beauté de jeu. Ouais. Au résultat, j'ai gagné quelques tournois en double, finale à Roland-Garros, à Bercy, Monte-Carlo, mais tout ça c'était après l'âge de 30 ans. Et pour moi, dès que j'ai rentré sur le court, je faisais un coup qui était un petit peu différent et ça faisait rire les gens. Et là, j'avais envie de les faire rire. C'était toujours ça. Ouais. Pour moi, c'était priorité. C'était de rentrer sur le court. Et au bout de 2 heures, 1 heure et demie, j'avais envie de voir que tout le monde a la banane, que tout le monde est heureux. Et que c'était ça. Maintenant, si je gagne, c'est vrai que je pouvais gagner. J'ai perdu des centaines de matchs. Je pouvais gagner plus d'argent. Mais j'ai perdu des centaines de matchs parce que je dis non, je préfère que les gens s'amusent. Ouais. Si je gagne, tant mieux. Ben, si je perds...
C'est extraordinaire, non?
Ah, c'est un gentleman.
Hello et bienvenue pour la saison 2 du podcast Tennis Légende. C'est un bonheur de vous retrouver en ce début d'année 2021. Je vous souhaite la meilleure saison possible, beaucoup de bonheur et d'anecdotes sur le circuit. On repart avec un invité chaque mardi pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Aujourd'hui, c'est bien simple, la vie de notre invité est tout simplement légendaire. On aimerait même qu'il soit immortel et nous fasse rêver autant que rire pour les générations à venir. Il est l'homme le plus demandé au monde en tournoi exhibition, rien que ça, avec des vidéos à plus de 30 millions de vues sur YouTube. Pour cet homme qui a grandi dans un trou de 3 mètres sur 4, comme il le dit lui-même, dans un complexe sportif, et qui a appris le tennis avec toutes sortes d'ustensiles qu'il pouvait avoir à portée de main. On a l'immense bonheur d'avoir avec nous Mansour Bahrami au micro de Tennis Légende. D'origine iranienne, cet homme a travaillé dès l'âge de 5 ans, tous les jours à 5 heures du matin. Un temps SDF, puis sans papier en France, à devoir constamment se cacher de la police, Mansour n'a pu que sérieusement commencer à jouer au tennis à l'âge de 30 ans. À son époque, un joueur quasi lambda pouvait s'inscrire en pré-qualif de Roland-Garros, où il y avait d'ailleurs 3 tours à jouer. Il a été le seul joueur à toucher des garanties financières pour jouer des qualifs d'un tournoi, pour un gars qui n'a jamais eu de coach, et qui a quand même réussi à faire finale en double à Bercy en 86. Je pense n'avoir jamais parlé avec un tel amoureux du tennis. Mansour est même revenu jouer la Coupe Davis à 40 ans passés pour son pays, l'Iran donc, et je suis certain qu'il serait capable d'y retourner aujourd'hui à 64 ans pour couvrir sa moitié de terrain en double. On a même fini par percer le secret qu'il se cache derrière sa moustache légendaire qu'il porte depuis ses 19 ans. D'ailleurs, si vous voulez nous voir en vidéo, l'échange est aussi à retrouver sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast et pensez à vous abonner. Avant de laisser place à l'épisode, vous pouvez devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. Place à notre 25e épisode avec Mansour Bahrami. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors Mansour Bahrami, tu es né le 26 avril 56 à Arak en Iran. Tu mesures 1m78 pour 82 kilos selon ta fiche ATP.
J'ai perdu 1 cm. Je fais 83, 84 kilos.
Et tu résides à Paris. Ton père travaillait comme jardinier à l'Imperial Country Club de Téhéran.
Non, ce n'était pas Imperial Country Club. Il y a quelqu'un qui a dit Imperial Country Club.
Ouais.
Non. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'Imperial Country Club.
D'accord.
Il y avait un grand complexe sportif qui était le seul d'ailleurs, le plus grand en Iran. C'était à Téhéran. Et c'était un complexe sportif avec tous les sports. Et mon père, il était jardinier là.
D'accord, ok.
Et nous avions un petit, trou de 3 mètres sur 4. C'était notre chez nous, c'était notre maison dans le cadre de cette complexe sportif.
T'es issu d'un milieu plutôt modeste, voire même pauvre. Tu t'es battu comme un dingue pour réaliser ton rêve qui était de devenir joueur professionnel de tennis.
C'est ça, oui.
T'as littéralement commencé à jouer avec une poêle à frire et même d'autres ustensiles de cuisine.
Je jouais avec tout ce qui ressemblait à... ça pouvait ressembler à une raquette. Des fois, c'était un bout de bois que je trouvais par terre. Des fois, c'était avec un balai, un poêle à frire, une pelle. J'avais pas de raquette. Et mon père, il gagnait, je me souviens très bien, 300 francs. C'était genre 45 euros par mois. C'était son salaire.
Ouais.
Donc, j'ai jamais demandé qu'il m'achète une raquette parce que je savais que c'était... Une raquette, c'était deux fois son salaire, c'était impossible.
Tu t'es fabriqué ta première raquette à 13 ans, avec un cadre en bois et des morceaux de cordage récupérés. Tu travaillais à l'époque... À 12 ans, d'accord.
À 12 ans. Il y a quelqu'un qui m'a donné un joueur de tennis qui avait 10 ans plus que moi. Il était déjà membre de l'équipe nationale iranienne, et pour qui je ramassais des balles. Et il m'a donné une raquette. Et puis, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais tellement heureux d'avoir une raquette. Et j'avais une autre raquette que j'avais achetée pour 1,50 francs.
Okay.
Il n'y avait pas de cordage. Je suis allé chez le cordeur dans la boutique de tennis, dans le club. Et je ramassais tous les cordages usés que lui, il jetait dans la poubelle. J'ai pris ces cordages. Et j'ai cordé cette raquette moi-même. Et donc, j'étais fier, j'étais content le lendemain. C'était dans ma tête, j'avais deux raquettes et j'étais comme des grands joueurs. J'ai rentré sur le court pour jouer ce jeu. Et ça a duré 1 minute et demie avant que je me fasse casser la gueule et casser les raquettes. Donc, les deux raquettes brisées.
Et par les gardes ?
Oui.
À l'époque, tu travailles comme ramasseur de balles pour des personnes aisées ?
Non, dans ce complexe sportif, je pouvais faire tous les sports, absolument tout. Il n'y avait pas de problème. J'avais 2 ans, je commençais à marcher. C'était un complexe sportif, c'était fermé, j'étais en sécurité. C'était vraiment le paradis sur Terre pour moi. C'était le plus bel endroit de ma vie que j'ai vu. C'était un truc fabuleux. Je commençais à marcher, je voyais tous les sports, j'entrais, je jouais au foot, je jouais au volley, j'essayais. Comme un gamin de 4-5 ans, je faisais tout, il n'y avait pas de problème. Mais à chaque fois que j'entrais sur le court de tennis, un coup de pied au cul, on me disait « Allez, dehors, dégage, t'as rien à faire ici ». Donc, je ne comprenais pas pourquoi on m'empêche d'aller sur le court de tennis. Et je suis revenu. Et finalement, ils m'ont dit « Écoute, tu peux venir ici si tu veux, mais uniquement en tant que ramasseur de balles pour des gens qui louent les cours, qui sont membres. Tu peux ramasser des balles. » Donc, je dis « Pourquoi pas ?» J'étais content de ramasser des balles. Ouais. J'ai gagné 10 centimes de l'or pour une heure de ramassage de balles. J'ai gagné 10 centimes. J'avais 5 ans jusqu'à 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je ramassais des balles. J'étais à 5 heures du matin sur le cours jusqu'à 8 heures. 8 heures et puis j'étais à l'école. Et puis l'après-midi, je venais à 4h30. Jusqu'à 20 heures, je ramassais des balles encore. Et après, j'ai rentré à la maison pour faire les devoirs de la maison, de l'école.
Ils étaient motivés, les Iraniens, pour faire les premières parties à 5 heures du matin?
Ah bah, c'était les meilleures heures. Plus tard, quand je donnais des cours de tennis, c'était le meilleure heure pour donner des cours de tennis parce qu'il faisait chaud. Les gens, ils venaient entre 5h et 8h, 8h30, ils jouaient. Après, ouais, ils partaient au travail. Après, à partir de 10h, il faisait très chaud. 10h, 11h, on arrêtait tout. Et puis après, vers 16h, 16h30, 17h, les gens venaient à nouveau à jouer au tennis. Les 5h, 6h du matin, c'était les heures le plus occupé. Oui, oui, c'était, il n'y avait aucun problème. Et il faisait chaud là-bas, tu sais, les étés, ça peut arriver facilement arriver à 45 degrés.
Tu te lances sur le circuit fin 75 grâce à un mécène. Tu as été obligé d'arrêter les tournois de tennis à cause de la révolution iranienne en 78. À ce moment-là, tu as le choix entre abandonner le tennis ou quitter le pays et perdre ta nationalité. Tu décides de rester et tu te lances dans le backgammon auquel tu joues tous les jours pendant 3 ans à Téhéran.
Ouais.
Tu finis par participer à un tournoi de tennis organisé à Téhéran que tu remportes avec pour récompense un vol pour Athènes. Tu as décidé de rajouter 200 euros pour changer la direction et aller direction Nice. À cette époque-là, tu quittes ta copine et ta famille et tu es d'ailleurs allé à Nice en obtenant un visa délivré grâce à l'intermédiaire d'un ami qui connaissait le ministre des Affaires étrangères.
Tout à fait.
Ça relève du miracle. Tu pars donc avec 8000 francs en poche et réalises rapidement que le coût de la vie était plus élevé à Nice qu'en Iran. Tu décides d'aller au casino et perds tout ton argent dès la première nuit en France. Lorsque ton visa français a expiré, tu t'es retrouvé sans carte de séjour. Tu es devenu réfugié politique, un immigrant illégal.
Non.
Faux.
Jusqu'à là, c'est bon. Mais réfugié, si j'ai accepté de devenir réfugié politique, je pense que ma vie de tennisman, ça pouvait changer complètement. Ça pouvait certainement aller mieux. J'avais un visa. Je suis arrivé le 8 août 80 en France. Et le 29 octobre 80, mon visa s'expirait. Après, on m'a dit, voilà, soit tu demandes l'asile politique, demande réfugié politique, tu nous donnes ton passeport, tu deviens apatride, donc tu peux plus jamais retourner en Iran, ou alors tu quittes la France. J'ai dit non, je ne veux pas et je ne peux pas demander l'asile politique. Donc, je n'ai pas accepté ça parce que si je demandais l'asile politique, je ne pouvais plus retourner chez moi. Mon père, il était déjà âgé. Il avait 81 ans quand je quittais l'Iran. C'était mon devoir de le voir au moins encore une fois. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit, je ne veux pas d'être réfugié politique. Si j'étais seul au monde, si je n'avais pas de famille, c'était la meilleure chose à faire et je l'aurais fait. Mais je suis très proche de ma famille, j'aime ma famille et il me manque tous les jours. Et donc, j'ai dit non, je ne veux pas. Et c'est là que mes galères ont commencé. Et puis voilà, je me cachais de la police, j'étais devenu vraiment sans papier, STF, j'avais nulle part à dormir, parfois rien à manger pendant quelques jours. Et c'était ça ma vie de migrant. Début de 80, 81, oui. Le 26 octobre, mon visa se terminait. Et le 29, trois jours plus tard, il fallait que je retourne en Iran. J'avais tout essayé, je n'arrivais pas. Il y avait un tournoi à Aulnay-sous-Bois. Je me suis dit, je vais faire ce tournoi et puis je vais retourner chez moi. Je ne peux plus rester ici. Donc, je suis allé faire le tournoi de Aulnay-sous-Bois. Je suis arrivé, j'ai vu le juge arbitre. Je lui ai dit, voilà, je suis Mansour Bahrami, j'étais assimilé à mon 15, je ne savais même pas ce que ça veut dire mon 15. Et avec mon classement, il fallait qu'il me loge. Donc, je lui demandais où est-ce que je suis logé. Je parlais en anglais. Et là, il y a un gars qui s'est approché, il s'appelait Daniel Meyers. C'était un Belge qui donnait des cours de tennis à Tennis Club de Villepinte.
Ouais.
Et donc, il m'a dit, voilà, bon, en anglais, il m'a dit, hello, my name is Daniel Meyers. If you want, you can stay in my house. Si vous voulez, vous pouvez rester chez moi. Bah, je dis avec grand plaisir, bah, c'est très gentil, merci. J'ai accepté d'aller chez lui. Je lui ai demandé d'attendre, je dois aller, que je fasse une heure de tennis, parce que je voulais m'entraîner un petit peu avant de jouer, parce que ça faisait 4-5 jours que je n'avais pas joué. Et donc, il m'a dit non. viens dans mon club, c'est mieux, on s'entraîne là-bas et après je te ramène ici pour jouer ton tournoi. Nous sommes allés à Tennis Club de Villepinte, on était en train de déjeuner, il m'a invité à déjeuner et puis le directeur de club qui s'appelait Jacques Rennes, il est décédé maintenant. Et il lui a dit, voilà, Jacques Mansour, voilà, Barami, il est moins 15, il cherche un club pour lequel il peut jouer les matchs par équipe et puis éventuellement donner des cours au tennis. Et Jacques m'a dit, écoute, si tu veux rester chez moi, donner des cours, moi, ça ne me pose aucun problème. Okay. Par contre, je ne te garantis pas que tu auras des élèves, des gens qui vont venir jouer avec toi. Je dis, bah, écoute, c'est sympa. Donc, Tennis Club de Villepinte, c'est devenu mon club et c'était ma base. Mais ils ont essayé de me prolonger mon visa par les commissariats. J'avais des récépissés de 5 jours, de 10 jours, de 2 semaines. Ça a duré 2 mois. Et puis, voilà, on arrive au mois de décembre. Et puis, ils m'ont dit, voilà, Mansour, je suis désolé, on a tout fait. Il n'y a plus rien à faire, donc voilà, tu fais ce que tu as à faire. Et bien, à ce moment-là, je commençais, j'étais resté trop longtemps pour maintenant de dire, maintenant je vais retourner en Iran. Je me suis dit, écoute, je reste, et même si je dois me cacher de la police et tout, voilà, dès que je voyais un flic à 100 mètres, je me changeais la direction pour qu'il ne me demande pas les papiers. Donc, je suis resté, et puis voilà.
Wow. En 86, tu finis par obtenir ton visa.
En 86, j'ai eu ma carte séjour de 10 ans. Ouais.
D'accord.
Tu veux que je te raconte ma carte séjour de
avec grand plaisir.
Première. Bon, la première carte séjour, je suis resté de décembre 80 jusqu'à juin 81. Je suis resté sans papier. Au mois de mai, juste avant Roland-Garros, Jacques Dorfman. Tu connais Jacques Dorfman?
Non,
tu connais pas. Jacques Dorfman, c'était le juge arbitre de tournoi de Roland-Garros. Il est décédé il y a deux ou trois ans. Et bon, il m'a dit, Mansour, je sais à quel point, bon, tu es vraiment, t'es pas à ta place, c'est pas mon 15, tu joues facilement mon première et tout. Donc, je te donne une wildcard pour faire les pré-qualifs de tournoi de Roland-Garros. C'était la chance de ma vie. Donc, je dis, bah, c'est très sympa. Merci, Jacques. Donc, je devais gagner 3 matchs pour entrer dans les qualifs. Okay. Après, j'ai gagné encore 3 matchs. Et là, j'ai déjà 6 matchs gagnés et j'entre dans le tableau final. Là, je joue au premier tour contre Jean-Louis Hayet, qui a été 4e, 5e joueur français, un des meilleurs joueurs français. Et je gagne contre lui. Ah. Et là, on était en pleine guerre, l'Iran, l'Irak. On parlait de l'Iran tous les jours. Mais pas en bien. Même aujourd'hui, on ne parle pas de bien. Hein. Donc, les journalistes, ils ont dit, tiens, il y a un Iranien, qui sait. On m'a demandé aux conférences de presse. Et je suis arrivé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que fais-tu? Qui tu es? Je dis, voilà, je suis Mansour Barami, je suis sans papier, STF. Voilà, j'ai envie de rester dans ce pays, j'ai envie de jouer au tennis. On veut me foutre à la porte. Donc, voilà, je n'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester ici. Et les journalistes m'ont aidé pour avoir. Ils ont pas mal parlé en disant c'est dingue de nous, la France qui accueille parfois des criminels, des dictateurs, on leur assure leur sécurité et tout. Là, il y a un sportif, il y a un joueur de tennis, on veut le foutre à la porte. Donc, ils ont aidé. Et bah, la semaine après le tournoi de Roland-Garros, avec le coupure des journaux. Et il y a un truc qui était très important aussi. À l'époque, on avait un radio, station de radio qui s'appelait FM, qui s'appelait Radio 7. C'était le seul radio FM. Et ils ont en boucle, ils ont diffusé mon interview 20 fois dans la journée. Et puis, voilà, ça m'a beaucoup aidé et d'avoir le visa. Et là, c'est un gars qui... un copain iranien qui connaissait aussi un petit peu le préfet de Bobigny, et bah, avec son aide et les coupures de journaux, maintenant on savait que j'étais joueur au tennis, on m'a donné ma première carte de séjour pour un an. Et en juin 81, je suis devenu un résident normal, sans avoir besoin de me cacher de la police.
On fait un rapide break, les légendes, pour vous rappeler qu'il est possible de recevoir les épisodes tout nouveau, tout chaud, chaque mercredi dans votre boîte mail. Et en bonus, on vous envoie une vidéo qui regroupe les anecdotes de notre invité avec les membres du top 3, que sont Federer, Nadal et Djokovic. Et on vous met aussi la liste des questions avec les minutes où elles sont posées pour découvrir en un clin d'œil les sujets qui ont été abordés et ceux qui peuvent le plus vous plaire. Voilà, le lien pour vous inscrire est juste en dessous dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti, on y retourne.
Mazel tov.
Et voilà. Et puis en 86, c'est 5 ans après, j'ai eu ma carte séjour de 10 ans. Donc, une fois que tu avais la carte séjour de 10 ans, vis-à-vis des autres pays, par exemple les Anglais, les Allemands, les Suisses, tu étais, quand je montrais les cartes séjour de 10 ans, pour eux, j'étais un résident à part entière en France. Donc, ça facilitait mon obtention de visa. Voilà, je pouvais l'avoir plus facilement. Mais jusqu'à là, je ne pouvais pas sortir de la France parce que voilà, j'avais pas de visa, et si je sortais, je savais même pas si je pouvais entrer. Donc voilà, je jouais en France en fait de 80 à 86. Je jouais pas beaucoup de tournois, pas beaucoup de tournois ATP quoi.
Alors merci pour toutes ces précisions. En 86, du coup, tu as 30 ans. Il paraît qu'à cette époque-là, les directeurs de tournois te versaient des garanties financières pour participer déjà aux qualifications et assurer le spectacle.
C'est tout à fait ça, oui.
Plus globalement, tu as été joueur de tennis professionnel de 75 à 92. Tu as joué sous les couleurs iraniennes, du coup, pendant ta carrière pro et française sur le circuit senior. Tu es décrit dans ta bio ATP comme l'un des joueurs les plus naturellement doués, raquette en main. Tu as été 192e joueur mondial à ton meilleur en simple le 9 mai 88. T'as 70 matchs au compteur sur le circuit principal, 23 victoires pour 47 défaites. Et t'as notamment battu Marc Rossé, alors classé 33e en 90, alors que toi, t'étais 679e. Tu dis dans une interview donnée à Men's Up que t'as perdu des centaines de matchs parce qu'au moment de conclure, t'avais encore envie de faire plaisir et de faire un petit geste qui va faire rire le public. Et que le plus important pour toi, c'était de faire passer un bon moment aux gens. T'as été 31e en double en juillet 87. Tu fais finale à Roland en double avec Vinogradski cette année-là. Tu fais aussi finale à Monte-Carlo en 87 en battant notamment la paire Forget-Noah. Quand le circuit senior a été créé en 93, t'as pu te révéler dans une seconde carrière qui t'a fait exploser auprès du grand public. T'as créé le tournoi des légendes à Roland-Garros en 98 après avoir insisté pendant 4 ans auprès de l'ancien directeur du tournoi, Patrice Clerc, qui finit par accepter pour que tu lui lâches la grappe.
Ouais, c'est ça.
Le deal était d'en faire une seule édition. Le tournoi se joue encore aujourd'hui, 22 ans plus tard. Tu as joué ton dernier match officiel à Roland-Garros à l'âge de 47 ans avec Tatiana Golovin, qui en avait 15. Tu n'as jamais eu de coach. En 2006, tu publies ton autobiographie « Le cours des miracles » et en sort d'ailleurs un DVD. Tu es marié à une dénommée Frédéric depuis 83. Vous avez 2 enfants, Antoine et Sam. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Monsieur.
C'est ça. Hein. Ma vie, il y a eu beaucoup de hauts et bas. Tout ce que j'ai fait au niveau de tennis, de résultats, c'était après l'âge de 30 ans. Parce que entre l'âge de 20 ans et 30 ans, je n'ai pas fait les tournois professionnels. Malheureusement, je ne pouvais pas jouer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connaisseurs, des légendes de tennis qui m'ont dit que j'étais très, très doué. Il y en a même Rod Laver qui a dit que Mansour, c'est le joueur qui est le plus talentueux que j'ai jamais vu dans le monde du tennis. Et il l'a dit, j'étais très étonné de lire ça. Et puis, bon, après, Borg, McEnroe, ils ont tous été très gentils, ils ont dit des mots gentils à mon égard. Je suis fier d'avoir été le seul joueur de l'histoire de tennis qui touchait des garanties pour faire des tournois de qualification. Et voilà, aujourd'hui, je suis encore celui qui est plus demandé dans le monde de dans les tournois exhibition. Il y a McEnroe et moi qui jouons le plus d'exhib partout, quoi. Je suis fier de ça. Je suis fier de celui qui n'a jamais rien gagné de majeur et qui a joué pourtant avec tous les grands de notre sport, à commencer par Rod Laver, et Rosewall, et Emerson, et Connors, et Nastas, et Borg, et même des matchs exhibes. Ça m'est arrivé de faire avec Federer, et Nadal, et puis des Williams. C'est fabuleux, quoi. C'est incroyable.
Exceptionnel. Ouais. On disait que c'était toi qui avais fabriqué ta première raquette. Et du coup, la vraie raquette, la vraie première avec laquelle tu es joué, elle venait d'où ?
Bah, c'était la raquette. Enfin, j'ai joué une minute et demie avec. On me l'a cassée. C'était la première fois que je tapais avec une vraie raquette. On me l'a cassée. Ça, j'avais 12 ans. Et la personne qui a fait ça, il m'a soulevé 5-6 fois au-dessus de sa tête. Et il m'a jeté par terre. Je pensais que ça serait les derniers jours de ma vie. J'ai saigné de partout. Je ne pouvais plus bouger. Et puis, une fois qu'il m'a laissé, je pensais que j'allais mourir. Et je l'ai vu se diriger vers mes raquettes. Et je l'ai supplié. J'ai dit, s'il te plaît, ne touche pas à mes raquettes. Laisse mes raquettes tranquilles. Il est allé vers ma raquette. Il les a rattrapées et il les a mis sur une marche et il les a écrasées. Et ça, c'était très difficile à encaisser. C'était pas facile.
Pourquoi autant de violence à cette époque-là, Mathieu ?
J'ai pas compris. Pendant des années, plusieurs années après, je suis retourné en Iran avec mes enfants, ma femme Frédéric, et on est arrivé dans ce club là où j'ai appris le tennis. Et mon fils Sam m'a dit, papa, tu te souviens de cette histoire que tu m'as dit et que ta raquette, elle a été cassée, et que la personne t'avait cassé la gueule. Et j'ai dit, oui. Il m'a dit, il est là, le gars. Et le gars, il était juste il était debout à gauche de mon fils.
Incroyable.
Je lui ai dit, écoute, il est juste à ta gauche, il est là, et mon fils Sam, qui avait, je sais pas, 12 ans, il a dit, putain, mais je vais lui... Je dis, écoute, reste tranquille, sois tranquille, c'est bon, c'est passé, ça, c'est 30 ans passés de ces trucs-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, on est fier de toi et tout, mais pendant des années, je cherchais... Je voulais vraiment qu'il fasse un truc, quelque chose de mal ou une erreur pour que je l'attrape, parce que j'étais arrivé, j'avais 17-18 ans, maintenant j'étais plus fort que lui, j'avais vraiment envie de lui casser la gueule. Mais bon, après, les années ont passé, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est pas grave, on oublie tout ça, enfin, je pardonne, mais oublier, j'oublierai jamais, mais voilà, ouais. Je pardonne, bah, c'est pas grave. C'est passé. Donc, et lui, il me voyait franchir des obstacles et puis arriver. Moi, à 13 ans, quand tu m'as dit ta première vraie raquette, à 13 ans, la Fédération iranienne de tennis m'a donné deux raquettes et ils m'ont dit, voilà, d'accord, maintenant, à partir de maintenant, tu peux jouer, tu peux venir réserver le terrain, le court, quand tu veux, autant que tu veux, tu peux jouer. Moi, 3 ans après ça, à l'âge de 16 ans, j'étais membre de l'équipe de Coupe Davis. Et là, j'étais devenu une star chez moi. Et là, ce gars-là, je le voyais tous les jours. Mais voilà, et lui, il était très sur ses gardes. Et il faisait attention pour ne pas me donner une occasion de le choper, de le frapper, quoi. Donc, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de me venger, mais... Au bout d'un moment, j'ai dit, bah, ça suffit, j'arrête de penser à ça.
J'ai trouvé dans ta bio, du coup, que tu t'étais lancé sur le circuit en fin 75 grâce à un mécène. Qui était cet homme ?
C'était un homme qui s'appelait, en fait, ils étaient deux. Il y avait Jahangir Nazemian, c'est mon ami, je lui parle 2-3 fois par semaine. Il habite New York. Et il y avait un autre monsieur qui s'appelait Dola Chahi. Eux, ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, voilà, Mansour, on sait que tu as certains talents, on ne veut pas que tu restes ici, donner des cours au tennis, ça serait gâché. Ils m'ont payé tous mes frais, les voyages, l'hôtel et tout ça. Et ils m'ont dit, va jouer sur le circuit international. Et puis, voilà, Je suis jeté pendant 15, 16 mois, un an et demi sur le circuit. Et puis, je commençais à venir bien classé et tout. Et puis, la révolution est arrivée. Et puis, les ayatollahs, ils ont pris le pouvoir. Et ils ont dit, voilà, le tennis, c'est un sport de capitaliste américain. On n'en veut pas. Donc, à ce moment-là, fin 77, on ne pouvait plus jouer. Il y avait des centaines de milliers de gens dans les rues. C'était devenu très dangereux de jouer au tennis. En 78, on n'a pas joué. Février 79, la République islamique a été officiellement instaurée. On n'avait rien à faire. Toute la journée, on jouait au backgammon. Et le tennis, c'était vraiment pour nous, c'était depuis longtemps, c'était mort. Mort. Et au début de notre discussion, tu m'as dit que je voulais pas partir et puis je suis resté jouer au backgammon. Je voulais partir, mais les frontières étaient fermées. Avec le passeport iranien, personne ne te donnait de visa et donc c'était impossible de sortir. Et j'ai eu la chance. Ayatollah Khomeini a nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères et ce gars-là, c'était un très bon ami d'un ami commun qu'on avait. Ouais. Donc, mon pote, je lui ai dit, écoute, ton copain, il est ministre des Affaires étrangères, tu peux peut-être m'aider pour que je m'en sors d'ici. Il m'a dit, donne-moi ton passeport. Je lui ai donné mon passeport et deux jours après, j'avais l'autorisation de quitter le pays. Ouais. Déjà, c'est ça la première chose que tu dois avoir. Et j'avais le visa pour la France et pour la Suisse. Et c'est comme ça que je suis parti. Et puis, voilà.
Pourquoi avoir choisi Nice, Mansour ?
Mon premier choix, c'était d'aller aux États-Unis. Mais il y avait à l'époque, je ne sais pas si tu as vu le film Argo, tu vois ?
Non.
Le film, c'était le film qui était fait sur les étudiants, les étudiants d'imams qui avaient pris l'ambassade des États-Unis en otage.
D'accord.
52, ils ont pris en début 80, 79, 80, ils ont pris le consulat américain en otage. Ils ont pris 52 diplomates. Pendant un an, ils étaient l'otage. Et puis, les Américains, ils ont dit, tous les Iraniens, déjà, ils ont commencé à foutre dehors les Iraniens qui étaient déjà aux États-Unis. Et puis, ils nous ont dit, même ceux qui ont le visa et leur visa est valable, leur visa est annulé. Moi, j'avais un visa jusqu'à novembre 81. Donc, mon visa a été annulé. Ils ont dit, ne venez pas parce que vous serez refoulé. Donc, c'est pour ça, je connaissais la France. Je connaissais toute l'Europe, j'avais déjà joué et je savais qu'après les États-Unis, la France, c'était le meilleur pays pour jouer au tennis. Parce qu'ici, il y a des tournois de week-end, il y a toute l'année, tu peux faire des tournois en tant qu'il manque 15, fin première série. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup de joueurs qui jouent. Et moi, je savais que je pouvais faire ça. Et puis, je savais qu'il y avait des matchs par équipe qui étaient assez importants ici. C'est pour ça que je suis venu en France.
J'ai lu sur ta fiche Wikipédia qu'en 73, tu joues pour la première fois sur gazon à Wimbledon, en junior.
J'ai perdu 6-0.
Voilà, tu as pris deux bulles contre le futur vainqueur parce que tu étais resté 3 jours sans manger dans ta chambre d'hôtel.
C'est ça. Je suis arrivé, il y a un gars qui était mon accompagnateur, il m'amenait. Normalement, son rôle, c'était qu'il m'amène à Londres. Moi, je ne savais pas dire même bonjour en anglais. Donc, il devait s'en occuper de moi. Il m'a laissé dans un truc qui s'appelait King George House. C'était comme une maison de Dracula. Et il m'a laissé et il est parti faire ses affaires, son business, je ne sais pas quoi.
C'était
un gars de la fédération iranienne. Un gars qui s'appelait George Oftandelian. C'était un Iranien, arménien. Et donc, il m'a laissé 3 jours dans ce truc-là. Heureusement qu'il y avait un robinet, je pouvais boire parce que franchement, j'ai pas mangé pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il m'a dit, Mansour, viens, il faut que tu ailles jouer ton match. Ils m'ont emmené sur le, à Wimbledon. Je suis allé sur le court numéro 7. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu le court en gazon. Mon adversaire, il n'était pas là. Je, 5 minutes passées, 8 minutes passées, je disais pourvu qu'il ne vienne pas, pour que je puisse avoir une chance d'aller taper quelques balles avant mon prochain match. 13 minutes, il n'était pas là. Et encore 2 minutes, il était disqualifié. Et bah, 14e minute, il était là. C'était un gars qui s'appelait Billy Martin. Billy Martin, c'était un gars, on parlait de lui comme futur Rod Laver. Et il est venu avec 12 raquettes Wilson sous les bras. Putain, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais 2 raquettes, il en avait 14. Il m'a mis 6-0. Et franchement, il n'y en a pas un. Si tu regardes le tableau, il n'y en a pas un qui a gagné plus de 2. Au final, il a gagné 6-2, 6-1. Et je suis persuadé que si j'avais joué, genre 2-3 jours, si j'avais joué sur gazon 2-3 heures par jour, je pense que j'aurais fait le meilleur score. Si je ne l'avais pas battu, j'aurais fait meilleur score. Franchement, je pense que je pouvais le battre. Mais en tout cas, je suis sûr que je pouvais faire le meilleur score de tous ces adversaires. Et puis 6-0, il m'a battu. Et 5-0, deuxième set, on change de côté. Et le mec, mon accompagnateur, me dit, Massou, c'est bien, continue comme ça. J'avais les boules dans la gorge. Je dis, mais tu te fous de ma gueule. Dans 30 secondes, je vais prendre encore une boule. Et, tu vois. Et franchement, j'étais mal, quoi. Donc, ce gars-là, il a gagné le tournoi facile. Et un an après, il était 45e mondial. Mais après, en fait, il a arrêté, quoi. Billy Martin, c'était si tu parles avec des joueurs qui ont mon âge, bah, c'est lui qui était censé devenir deuxième prochain Rod Laver. En fait, il a joué son meilleur tennis quand il était junior.
Et t'as rien mangé pendant 3 jours dans cet hôtel parce que t'avais tout simplement zéro argent avec toi, quoi?
Non, c'était pas un hôtel. Moi, j'avais peur de sortir. Je voyais par ma fenêtre, la chambre, tu ouvrais la fenêtre, tu ouvrais la porte. Et c'était 2 mètres, c'était comme une tombe. C'était 2 mètres sur 2 mètres. Et ben, tu tombais sur le lit. Et bien, il y avait une fenêtre, je regardais dehors, je voyais les gens qui sortaient du métro. C'était vraiment une fourmilière. Et je ne savais pas parler. Moi, je dis, si je sors, que je suis perdu, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je ne suis pas sorti. Je ne suis pas sorti. Et il y avait un robinet. Bah, je buvais de l'eau de robinet. Puis il y avait une douche sur le palier pour des autres personnes aussi. Bah, je me douchais, mais c'est tout. J'ai pas mangé.
Quel était ton coup fort de l'époque, Mansour?
Le coup fort?
Ouais, ton coup fort.
Tu veux dire, bah, coup de ras, revers, c'est tout ça?
Ton meilleur coup, ouais.
Bah, je sais pas. Moi, je servais, je courais vers le filet tout le temps. Donc, je sais pas, je faisais un peu tout, rien de vraiment très fort, mais je faisais tout, un peu de tout, quoi. D'accord. Tu sais, quand tu as pas appris j'ai jamais eu de leçon de tennis de ma vie, je suis complètement autodidacte, j'ai tout appris tout seul, alors de taper des balles comme ça, et nous regarder de l'autre côté, je faisais rire les gens. Quand j'avais 12-13 ans, que je tapais contre le mur, les gens s'arrêtaient pour me dire, mais comment tu fais tout ça? Et encore aujourd'hui, on me dit, comment tu fais? J'ai dit, je sais pas, moi, personne m'a appris, je le fais.
Mais quand tu fais monter la balle à 15 mètres de haut et qu'elle rentre dans ta poche, ça c'est de la répétition, tu l'as fait des centaines, des milliers de fois avant de réussir.
Non, jamais. Première fois. Tu ne trouveras jamais, tu peux aller demander à tous les joueurs. Ça, c'est-à-dire que si tu me vois vraiment, j'ai l'air vraiment con d'aller taper des balles dans l'air et essayer de choper dans la poche. J'ai jamais tapé les balles entre les jambes ou le côté ou le truc, le dos au filet et quand tu fais les smash inversés dos au filet. Jamais je me suis entraîné comme ça. Jamais. Je le fais ça tout naturellement. Je tape la balle, c'est pas 15 mètres, je tapais des balles à 80 mètres là-haut et je la chope dans la poche. Mais jamais je me suis entraîné pour ça. Une première fois, j'étais arrivé, c'était à Kitzbühel, je jouais contre, comme contre Javier Sanchez. Et à un moment, le ramasseur, il m'envoie la balle. Et je prends la balle qui monte un petit peu comme ça et puis arrive vers ma poche. La première fois, je l'ai fait là-bas. C'était en 87 ou 88. Et j'ouvre la balle, la poche et la balle entre dans ma poche. Et je vois que les gens se marrent, ils sont contents. Bon, après, à chaque fois, je le faisais et je peux le faire 4 fois sur 5. Je rate peut-être sur 5, je raterai une fois peut-être. Je me suis jamais entraîné pour ça.
Incroyable. Qu'est-ce que tu ressens généralement, justement, quand les gens commencent à rigoler de tes facéties, de ton savoir-faire, de ton talent?
Ah, j'adore faire rire les gens. Quand je sors de cours et que je vois les gens qui viennent vers moi, ils me disent « Mansour, bravo, c'était sympa, on a adoré, tu nous as donné 2 heures de bonheur et tout », c'est la meilleure des récompenses. Il y a eu, quand je jouais plus sérieusement, des fois, les gens venaient me voir, ils me disaient « Mansour, c'était super, tu en as trop fait. Maintenant, tu as perdu, on ne te verra plus. Tu aurais pu faire un peu moins, gagner ce match. Par exemple, sur le bal de match, pourquoi tu as fait le service à la cuillère comme ça? Pourquoi tu pouvais servir normalement et gagner ?» Et bien, en fait, j'avais fait ça pour rigoler seulement. Et bien, de temps en temps, je perdais. Enfin, une fois sur deux, je perdais. Et puis, les gens me disaient, ils me disaient « Mais c'est con, c'est bête, parce que maintenant, on ne te voit plus demain dans le tournoi. » Et bien, je me disais, ils disent vrai, c'est vrai, ils ont raison. Et bien, la prochaine fois, je vais jouer à fond sérieux. Quand je jouais sérieux, au bout de 20-25 minutes, je m'ennuyais. Et je voyais qu'il ne se passait pas des trucs que j'ai envie que se passe sur le court. Donc, au bout de 25 minutes, je m'ennuyais. Je voyais que les gens, je commençais un truc fou. Et les gens, ils étaient morts de rire. Et bien là, allez, ça recommence, on refait la même chose. Et bien, je faisais la même chose. Et puis, des fois, je gagnais, des fois, je perdais. Il y a eu des matchs que j'ai perdus, qu'on me dit, mais comment tu fais? Tariq Benabiles, en 86, je joue contre Yannick Noah à Bercy, 2e tour. J'avais battu Tariq Benabiles, il était numéro 19 mondial, je le bats. 2e tour, je perds contre Yannick, 7-5, 7-6. J'avais balle de 7 premier, balle de 7 deuxième. Je fais des trucs fous et je perds. Et Tariq Benabiles, aujourd'hui encore, il me dit, c'est pas possible, Mansour. Combien il t'a payé pour que tu perds? Je dis, mais tu es malade ou quoi? Tu es payé, mais tu es fou. Il me dit, non, tu jouais comme tu jouais, tu pouvais pas perdre. J'ai dit, attends, je joue comme je joue. Hein. Je fais fou et j'ai perdu. Et Yannick, il faut le battre. Hein. C'est pas... Donc, voilà. Par contre, ceux qui ont vu le match, ils se souviennent encore, quoi.
Quelle est la plus belle victoire de ta carrière? La plus symbolique?
Je me souviens, par exemple, je jouais contre Jakob Lasek. Il était numéro 8, numéro 9 mondial. Et on m'a dit, Mansour, putain, des joueurs, ils sont venus. Ils m'ont dit, Mansour, tu vas prendre une tôle et tout. Je lui ai dit, mais attends, vous êtes malade ou quoi? Il dit, mais attends, tu te rends compte, les gars, il est 10e mondial, 8e mondial. Je dis, je lui mets 1 et 2. Et ils ont rigolé. Eh bien, on entrait sur le cours. Le lendemain, on entre sur le cours. Et Jakob Lasek m'a dit, il paraît que tu as dit que tu vas me mettre 1 et 2. Je dis, oui, je l'ai dit. Eh bien, je lui ai mis 1 et 2. Donc,
incroyable.
Mais je ne jouais pas vraiment pour gagner. Sauf si on me chauffait vraiment. Mais j'ai battu beaucoup de joueurs. Hein. J'ai battu Volkov, il était 14e mondial. J'ai battu Rossé. J'ai battu Novacek, qui était numéro 10 mondial. J'ai battu Emilio Sanchez. Et j'ai battu Guy Forget. Ils étaient tous mieux classés que moi. Hein. Ils jouaient, moi je ne jouais pas. Donc moi, j'étais en France, j'étais l'homme à battre. J'étais fédéraire français. Je jouais qu'en tournoi français. Donc, je ne pouvais pas jouer d'autres tournois. Et quand j'ai commencé à jouer des tournois ATP, j'avais 32 ans, 33 ans. Donc, en ce moment-là, j'ai eu des meilleurs résultats en double parce que j'avais un gars à côté de moi. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Ensemble, je faisais, j'avais pas de responsabilité. Je pouvais faire ce que je voulais et puis faire rire les gens. Et puis, si je perdais, c'était mon problème. Mais en double, je jouais plus sérieusement. Donc, j'ai battu les meilleurs joueurs du monde en double. Je les ai tous battus, en fait. Les joueurs de mon équipe, mon temps, je les ai tous battus Voilà, en ce moment-là, et les joueurs, ils jouaient, hein, ils jouaient tous en double, ils jouaient. Hein. J'ai battu McEnroe, j'ai battu Vilander, j'ai battu Noah Forger, j'ai battu Casal Sanchez, j'ai battu Slozil Smith, et j'ai battu tous ces mecs-là. C'était des joueurs de mon temps.
Mais à t'écouter, on dirait que c'est que naturel et du talent et de l'inné. Est-ce que tu avais quand même un gros entraînement, une grosse charge d'entraînement, une détermination particulière ou comment ça s'est passé tout
ça? Non, je ne m'entraînais pas énormément. Quand je m'entraînais fort, je m'entraînais genre 2h30 par jour, 1h30 le matin, 1h l'après-midi. Et puis voilà quoi, mon entraînement, c'était mon meilleur entraînement, c'était contre le mur. Je jouais contre le mur, je pouvais rester 2 heures, 3 heures contre le mur, tout seul, je m'entraînais contre le mur. Les meilleurs endroits où j'étais, quand je n'avais pas le droit de jouer sur le court au tennis en Iran, tu sais, les bases de tennis, tu l'apprends quand tu as 5-6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Ça, c'est les bases. Ça, c'est, tu apprends tout ça, c'est là que tu te formes. Et moi, toutes ces années-là, pendant 8 ans, je jouais avec ma main comme ça, c'est comme raquette. Je tapais.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Contre le mur, avec une balle, contre le mur, quand j'avais pas un bout de bois ou j'avais pas de pelle. Ou, voilà. Et une fois qu'on m'a donné la raquette, tout était plus facile. Vraiment, c'était facile, quoi. Et aujourd'hui, je m'entraîne plus, quoi. Je m'entraîne 2, peut-être 3 fois 25 minutes dans la semaine. Maximum 1h30 par semaine. Je tape 300 fois dans la balle. Je bouge pas du tout. Je fais 300 balles. Et puis, je fais 70 volées. Je fais 10 smash, une vingtaine de services. Après, j'arrête, je sors.
Tu t'entraînes où aujourd'hui?
Je m'entraîne à Roland-Garros.
D'accord. Okay.
Je m'entraîne à Roland-Garros.
Et t'as jamais eu de coach?
Un jour, Yannick a dit, on l'a interviewé à mon sujet, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'en penses que Mansour n'a jamais eu de coach? Il m'a dit, je suis très content pour lui, parce que s'il avait un entraîneur, un coach, il serait devenu un autre joueur ennuyeux comme les autres. C'est ce qu'il avait dit, Yannick. Donc, et c'est vrai, je ne regrette pas d'avoir pas eu un coach. Il y a un truc regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir pu jouer entre l'âge de 20 ans et 30 ans. Ça, c'est mon seul regret. Voilà.
Le match que tu as joué où il y avait le plus d'ambiance, le plus gros frisson que tu as eu sur un court, c'était où?
Frisson, je ne sais pas. Mais
frisson
plaisir.
Grâce à l'ambiance. Ouais, plaisir, ouais.
Je me souviens, j'ai joué un match qui était hyper drôle. J'ai joué à Bâle contre Yannick. 1-0, je le break 2-0, 2-1, 3-1, 4-2, 4-1 ou 4-2, j'avais un break, je jouais pas mal. Il n'était pas au top, il n'était pas hyper confiant. Et à un moment donné, à 30-0, je serre, je monte à la volée et je me fais mal derrière fessier, une élongation, je sais pas. Je pouvais plus courir, mais je pouvais marcher. Et bah, je joue le jeu comme ça, en marchant et tout. Le kiné d'ATP qui entre sur le cours et il me fait, Mansour, il faut que tu arrêtes. Tu vas aggraver ton truc, là, c'est dangereux, il faut que tu arrêtes. Et Yann, il arrive, il me fait, oui, Mansour, arrête. Et je dis, non, Yann, j'ai jamais arrêté un match de ma vie. C'est pas aujourd'hui que j'avais arrêté. Je lui dis, écoute, t'as gagné, on joue pour le public. Et là, on a fait un truc pas incroyable, c'était vraiment les gens, j'ai vu Connors, Ivanisevic, Novacek, Jean-Philippe, Florian, tous les joueurs, ils étaient au premier rang, ils regardaient, j'ai vu des joueurs, j'ai vu l'agent de Yannick, Sergio Palmieri, qui était en même temps agent de McEnroe, il tellement riait qu'il roulait par terre. Il y avait 10 000 personnes et c'était incroyable. On avait fait un match, mais c'était délirant, quoi. Et la balle de match, j'ai servi avec une petite balle, tu sais, la porte-clés. On était tous les deux au filet. On a fait genre une vingtaine d'échanges. Et puis, le point est fini. On regarde l'arbitre, le pauvre arbitre. Après ce match-là, il a arrêté le tennis. Il a arrêté l'arbitrage. Et il regardait tout le temps. Il savait pas quoi faire. Il savait pas quelle décision prendre. Il regardait le superviseur qui s'appelait Ed Hardisty. Et il demandait, il disait à Ed, qu'est-ce que je fais? Ed, il disait, ah, moi, je sais pas, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Et puis la balle de match, je le vois, il était en sueur et tout. Et là, je dis à Yannick, écoute, bah, c'est bon, allez, on arrête. Et là, le mec, il a fait, je c'était match, Yannick. Et c'était incroyable. C'était un match inoubliable.
Magique. Quel était ton plus grand rêve quand tu étais sur le circuit en termes d'objectifs à accomplir?
Rêve, moi, c'était mon rêve de gamin de jouer sur le cours sur le cours central de Roland Garros, de Wimbledon. Ça, c'était mon rêve. Je rêvais de ça. Mais quand j'étais assez bon pour jouer ces tournois-là, à cause de ma nationalité, je ne pouvais pas jouer. Mais je les accomplis parce que j'ai joué sur le cours central à Wimbledon, j'ai joué sur le cours central à Roland-Garros, j'ai joué sur le cours central à Flushing Meadows, j'ai joué sur le cours central en Australie, j'ai joué sur tous les meilleurs cours du monde. Donc, et j'ai joué sur tous les cours plein de monde. Et ça, je le fais. Mais j'aurais bien voulu jouer. Voilà, sur ce cours-là, quand j'avais 25 ans, 26 ans.
Ouais. Qui était ton idole à l'époque?
J'aimais Nastase, j'aimais le jeu de Nastase. Mais mon idole quand j'étais gamin, c'était celui qui m'a donné une raquette. C'était un joueur iranien qui s'appelait Shehrzad Akbari. Celui qui m'a donné ma première raquette, qui a duré 24 heures. C'était lui, mon idole, en fait.
Qui était le joueur le plus drôle de l'époque?
C'était moi. C'était moi, c'était Nastase, c'était Yannick. Voilà. Aujourd'hui, c'est le joueur le plus drôle, c'est toujours moi. J'ai jamais été rien de tout. Mais quand je vois qu'on m'invite dans tous les tournois d'exhibition, c'est moi, c'est personne d'autre. C'est moi qui a fait beaucoup dans les matchs d'exhibition. Je le dis ça avec modestie, mais je dis ça aussi avec beaucoup de fierté. Quand tu regardes, quand Jimmy Connors il a commencé le circuit des seniors, des anciens, j'étais le seul joueur qui n'a jamais été ni top 10, ni top 50, ni top 100. J'ai jamais été. Mais tous les autres, ils étaient anciens numéro 1, anciens numéro 2, vainqueurs de Coupe Davis, vainqueurs de Grand Chelem. Il n'y avait que moi qui n'avais rien gagné, qui était dans tous les tournois. Quand Jimmy Connors a fait le circuit, s'il y avait un joueur qui jouait tous les tournois, on avait 25 tournois dans le monde entier, dans tous les 5 continents, toute l'année. Le seul qui jouait les tous, c'était moi. J'étais fier de marcher avec Connors, avec McEnroe, avec Federer, avec Borg, avec Stan Smith, avec tous ces mecs-là. Je jouais avec Rod Laver. Qui je suis pour jouer avec Rod Laver? Je jouais avec Rosewald, je jouais avec Emerson, je jouais avec Fred Stollet, avec Newcomb, avec Roche, avec Stan Smith. Qui c'est qui peut dire autant? Je ne sais pas, ouais. Mais j'ai joué avec eux et aujourd'hui encore, je joue avec les jeunes. J'ai joué avec Rod Laver. Maintenant, je joue des matchs exhibe avec. Je sais pas, avec Chardy, avec Songa, avec Simon, avec ces mecs-là.
Tu as joué en Coupe Davis pour l'Iran. Est-ce que tu gardes une anecdote particulière d'une sélection?
J'ai joué pendant 5-6 ans. Après, tout est arrêté. J'avais 21 ans, tout était arrêté. Et puis après, à 40 ans, on m'a demandé de venir parce que le tennis était fermé. Mes amis m'ont dit, Mansour, on s'est battu pour réouvrir le tennis. On a besoin de toi de venir nous donner un coup de main. Voilà, je suis allé jouer avec eux. Je les ai amenés deux fois en finale, mais deux fois en finale, je n'ai pas joué parce qu'en même temps, il y avait Compact Senior au Racing Club de France. Et donc, voilà, je leur avais dit de changer la date. Je viendrai pour jouer la finale. Ils n'ont pas demandé à ITF pour changer. Donc, je ne suis pas allé parce que j'avais mon contrat avec Senior Tour. Donc, oui, j'ai joué avec eux. Je pense que je peux encore jouer avec eux en double si je veux, mais je ne veux pas. C'était sympa. J'aurais bien voulu jouer pour la France à un moment donné. J'étais pas très loin. Il y avait Jean-Paul Lotte qui m'avait demandé éventuellement pour le double. J'avais 33, 34 ans. Éventuellement pour le double, il m'a dit, j'ai peut-être besoin de toi. Je lui ai dit, bah, ça serait avec plaisir. Moi, je voilà. Mais je n'ai pas joué, malheureusement.
Si tu devais transmettre ton expérience à un jeune joueur de 10 ans qui rêve de devenir professionnel, tu lui dirais quoi?
Moi, je lui dirais, travaille dur, fais-le avec sérieux. Donne tout ce que tu as donné, mais surtout prends du plaisir. Et puis, tu arriveras peut-être, et tu arriveras peut-être pas, mais au moins tu as eu le plaisir. Moi, à ceux qui me demandent main sous un conseil, je dis travaille, essaye de jouer bien, à fond, mais surtout avec plaisir. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit. Si tu fais ton travail avec plaisir, tu arriveras au plus haut niveau. Si tu n'as pas de plaisir, c'est impossible. Si tu n'as pas de plaisir, si tu n'as pas de plaisir à faire ce que tu fais, tu n'arriveras jamais. Donc, moi, personnellement, on me dit, mais comment tu fais pour encore continuer? Mais je dis, mais vous ne vous rendez pas compte du plaisir que j'ai de jouer. C'est seulement le sourire des gens qui me donne l'énergie pour retourner sur le court. J'espère pouvoir jouer encore un an ou deux, mais j'en sais rien. Mais voilà, si ma santé me permet, ben, je jouerai tant qu'on me demande de venir jouer, tant que je vois que les gens ils ont du plaisir à venir me jouer, je jouerai. Et j'ai des clients pour lesquels je joue depuis 28 ans, je retourne au même tournoi depuis 28 ans d'affilée. Et les gens me disent, mais c'est incroyable, Mansour, tout améliore. C'est fabuleux d'entendre ça. Et rien que ça, ça charge les batteries, ça me pousse vers l'avant. C'est ça. Mais si tu n'as pas de plaisir, tu ne peux pas arriver, ce n'est pas possible.
Quelle est la plus belle fiesta que tu as fait sur le tour, le circuit?
Fiesta? Ouais. Ah bah, fiesta, j'en ai fait avec Yannick. On sortait, on jouait et puis on sortait toute la nuit et on arrivait direct de boîte de nuit au club pour jouer le prochain match. La fête, on en a fait. Maintenant, j'en fais beaucoup moins, j'ai plus la force, mais on a fait, on a pris du temps, on a pris du plaisir. Et maintenant, je sais pas, les joueurs, ils ont plus le temps pour ça. Et ils ont raison, parce que tu ne peux pas tout faire et tout faire bien. Si tu fais la fête, tu ne peux pas être au top non plus.
Tu étais superstitieux, toi, Mansour, sur le circuit?
Je pense qu'on est tous un peu superstitieux. Moi, par exemple, je suis arrivé dans le vestiaire, je prenais une douche, et le lendemain ou 3 heures après, quand je finissais mon match, il fallait que ça soit la même douche. Et eh bien, si j'arrivais qu'il y avait quelqu'un dans ma douche, et là, c'était un désastre parce que je disais, ça va, dommage, je vais perdre, c'est pas possible. Ou alors la chaise de joueur que tu prends, tu as en tête de prendre, par exemple, à gauche de l'arbitre, et que tu arrives, tu essaies de venir plutôt. Maintenant, on t'appelle joueur par joueur. On appelle, voilà, Max arrive en premier, il va prendre la chaise qu'il veut. Mais à l'époque, on entrait tous les deux en même temps. Et si tu voulais prendre à gauche de l'arbitre, bah, à 3-4 mètres avant, arriver à la chaise, bah, j'ai accéléré un peu pour être sûr que je vais dans cette même chaise. Et des fois, il y avait l'autre qui allait plus vite aussi. Et là, c'était mauvais signe, quoi. Oui, on est tous un peu superstitieux aussi. Ceux qui disent que non, je pense qu'ils mentent.
Quelle est la plus belle partie de ton métier?
C'est que de l'avantage. Être joueur au tennis, c'est une chance énorme. Je veux dire, c'est tous les jours, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Jamais je pensais que j'ai 64 ans dans quelques jours. Jamais je pensais qu'à 64 ans, on va me payer pour venir jouer au tennis. On me paye pour venir jouer au tennis. Et je dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est fabuleux. Ça, c'est qu'il y a des avantages. Je fais un truc qui me plaît, sans lequel je préfère mourir que ne pas jouer au tennis. Et on me paye pour ça. C'est qu'il y a de l'avantage.
Pas d'inconvénient?
Non, inconvénient, quand c'est le seul inconvénient, c'est que quand je suis malheureux, quand j'ai mal quelque part, quand j'ai mal au genou, voilà, que je ne peux pas jouer. Voilà, je suis malheureux parce que je ne peux pas jouer. Mais sinon, si tu n'as pas mal, c'est quel l'avantage. C'est d'être joueur au tennis, c'est avantage. C'est une chance incroyable. C'est formidable d'être joueur au tennis. Je dis merci Dieu tous les jours. Que mon père, il était jardinier dans ce stade complexe sportif et que je suis devenu joueur au tennis.
Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des trois premiers joueurs mondiaux, Roger, Nadal et Djoko?
Je pense que ce sont des joueurs hors de commun. Ce sont des gars, on n'a jamais eu trois joueurs en même temps. Pendant 10-12 dernières années, avoir trois joueurs comme ça qui ont gagné presque 60 grands chelems, c'est jamais vu, quoi. On vit une époque exceptionnelle. Je pense que trois joueurs comme ça, même que Andy Murray, le pauvre, bon, il était blessé, sinon on pouvait même dire peut-être quatre. Trois ou quatre joueurs comme ça, on verra peut-être dans 300 ans, 200 ans. Ça n'arrive rarement d'être tellement proche, tellement fort, que dans deux ans, voire trois ans, on ne verra plus ces joueurs-là, ils vont arrêter. Et il y aura un nouveau numéro un, un nouveau numéro deux. Mais à mon avis, ils ne joueront jamais à ce niveau-là.
Est-ce que tu les connais bien? Et est-ce que tu as vécu des trucs avec eux, des petites histoires, des anecdotes que tu pourrais nous raconter?
Bah avec Roger, j'ai joué une ou deux fois en exil. Je sais que à chaque fois qu'il me voit, il est content de me voir. Il m'a dit un jour, Mansour, tu te souviens, 92, quand tu as joué contre Connors à Bâle, il avait 11 ans. Je dis oui. Il m'a dit, tu te souviens que tu as tapé des balles avec moi? Je dis, non, je me souviens que j'ai joué avec un gamin, mais je me souvenais pas que c'était toi. Il m'a dit, bah oui, en 92, c'était moi. Je jouais avec toi. Et ça, il me l'a dit en 2005.
Ouais.
Quand il jouait son demi-finale de Wimbledon contre Sébastien Grosjean, un vendredi où il a plu toute la journée. Moi, j'étais en demi-finale des seniors. Lui, il était contre Seb. Et toute la journée, on n'a fait qu'un set. On entrait, on sortait ensemble. Et il m'a dit, voilà, j'ai une photo de toi et moi et Jimmy Connors. Bah, si tu veux, je te le donne. Deux, trois mois après, mon livre, il sortait. Je dis, bah, ça me ferait très plaisir si tu me la donnes. Et puis, il me l'a apporté. Deux semaines après, il me l'a donné. Donc, je l'ai mis dans mon livre. Et lui, il l'avait mis dans son livre. Il a fait un livre qui s'appelle « Number One ». Il l'a mis avec la légende. Il a ramassé les balles pour nous et il me l'a donné. Et je vois des joueurs, Nadal, bien sûr, je connais aussi, et Djokovic aussi. Et à chaque fois que je les vois, qu'ils me voient, les mecs, ils sont. Je sais qu'ils m'aiment bien, ils me prennent dans le bras, ils me disent voilà, on est content de te voir et tout. Et c'est ce qui est très sympa. Les joueurs viennent comme ça, Mansour, tu sais, tu te souviens, je t'ai ramassé des balles et tout. Bah, je vais pas souvenir, mais les joueurs, ils me le disent. Oui, c'est vrai.
Et Nadal et Djoko, tu as vécu des trucs en particulier avec eux?
Bah, je jouais un petit peu en exhibition avec eux, notamment en Australie. Je jouais avec Djokovic deux ou trois fois, tu sais, avec Lacoste et tout. Oui, je jouais, bien sûr, oui.
À quel moment les gens ont commencé à te reconnaître dans la rue ?
En France ?
Ouais.
Je crois que c'était à partir de 86, ce fameux match que j'avais fait, tu sais, avec Yannick à Bercy. Ça s'était passé à 20h en plus, on avait joué prime time, et c'était passé en direct sur TF1. Et puis les gens, ils ont commencé à me connaître un peu plus dans la rue, mais dans le milieu tennis, les gens me le connaissaient déjà. Mais dans la rue, c'était ça. Et puis après, deux, trois ans après, j'étais finale de Roland-Garros, finale à Monte-Carlo, Bordeaux, Hambourg, tout ça. Donc, c'était à partir de l'âge de vers 30, 31 ans, 32 ans, oui.
Qu'est-ce que ça t'a fait le sentiment de devenir connu ?
Franchement, je suis content quand les gens me reconnaissent et ils viennent me voir. Je suis content de leur dire bonjour. C'est tout, hein, ça me dérange pas du tout. Si je sors, il m'arrive deux, trois fois, quatre fois dans la journée, les gens me reconnaissent. Ils me disent toujours des mots gentils. C'est super sympa, c'est agréable. Tout de suite, ils ont le sourire. Je suis content de les faire sourire que de les faire pleurer, quoi.
J'ai fait ramasseur de balles pour toi à Nevers. Tu étais venu faire une exhibition avec Yannick.
C'était juste, on venait d'arriver de New York. J'étais juste après le 11 septembre.
Ouais, exactement.
Ouais. C'était le 11 septembre.
C'était le 11,
Je suis entré la veille, le jour avant, je suis entré de New York.
Ouais.
Je suis entré, j'étais j'ai joué la US Open, je suis entré avec Yannick, je me souviens très bien de ces journées-là, je me souviens très très bien.
Et à un moment, Yannick me demande la balle, et moi je regarde ailleurs, et il m'a tendu sa raquette, et j'ai joué avec toi pendant 2-3 minutes. Donc là, j'avais 11 ans, et il y a quelques années, je faisais un stage en haut des Champs-Élysées, je bossais rue Lamennais, je ne sais pas si tu vois.
Ouais.
Et je t'ai croisé et je suis venu te voir et je t'ai dit « Ah, Mansour, comment ça va ? On a été ensemble. » Et là, tu m'as regardé, tu étais hyper surpris. Et je me suis dit « Merde, je l'ai embêté, je l'ai dérangé. » Je savais plus. J'ai cru que je t'avais embêté, en fait. C'était bizarre.
Ah bon ?
Ouais, je me suis dit « Oh bon, j'ai dû l'embêter. » Bon.
je pense pas, non, j'en sais rien, je sais pas. Okay. J'étais désagréable ?
Non, pas du tout. Mais je sentais que tu étais surpris. Et c'est pour ça que je me demandais comment tu vivais tous les jours d'être parfois arrêté dans la rue, tout ça. Parfois, ça peut être embêtant.
Non, moi, ça m'embête pas. Franchement, ça m'embête pas.
D'accord, ok. Aujourd'hui, sur ta fiche ATP, il est indiqué que tu as gagné 368 105 dollars de prize money. Je voulais savoir quel regard tu portes sur ce montant.
C'était pas grand-chose, franchement. C'était l'argent de poche, c'était pour survivre, quoi. Même à l'époque, c'était pas grand chose, hein. Ta carrière, tu gagnes 300 000, en plus, 300 000 dollars. Déjà, il y avait facilement 25% de taxes, 30% de taxes. Ça restait 200 000. Hein. 200 000, ça me permettait de vivre, quoi.
Ouais. Tu te souviens de la première fois où tu as gagné un gros chèque et que tu as ressenti ?
Oui, c'était la finale de Bercy. C'était le premier gros chèque. Enfin, le premier gros chèque que j'ai gagné, si tu veux, c'était au circuit Marlboro. C'était en 82. Il y avait un circuit qui s'appelait circuit Marlboro. Je jouais en France. C'était un circuit avec 25 tournois. Et puis, c'était des tournois nationaux. Donc, tu gagnais, 2 000, 3 000 francs, 4 000 francs à chaque tournoi, selon la grandeur de tournoi. Parfois, c'était 3 000, parfois, c'était 5 000, 6 000. Et puis, il y avait des points attribués. et tous les meilleurs joueurs français jouaient, quoi. À la fin de circuit, c'est lui qui avait le plus de points. Il gagnait un chèque, un bonus de 100 000 francs. Ça, c'était mon premier gros chèque, 100 000 francs, avec lequel j'ai acheté mon premier appartement. Voilà. Ça, c'était un gros chèque que j'ai eu, avec lequel j'ai acheté mon premier appartement, avec un emprunt, à Colombes.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à avoir cette autonomie financière en vue du milieu dont tu viens?
Bah, j'ai senti que voilà, je fais partie de ceux maintenant qui gagnent un peu d'argent, quoi, qui peut vivre bien de son travail, quoi. Parce que jusque-là, c'était je végétais, quoi.
Ouais.
C'est là avec ce truc-là, je me suis dit, je franchis un autre niveau, quoi. Donc j'arrive à un niveau plus haut, quoi, plus sérieux. Et puis après ça, c'était tu sais, jouant uniquement en France et arriver en finale de Bercy, c'était quand même quelque chose. C'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Donc j'étais fier de ça. J'étais content. J'avais battu Noah Forger, j'avais battu Villander Nistrom, j'avais battu Casal Sanchez, avec Diego Perez. Tout le monde me disait, mais comment tu joues avec Diego Perez? Il ne sait pas jouer. Donc voilà, c'était en perdant contre McEnroe, Fleming. Bon, je les ai battus après, mais perdu contre Fleming, McEnroe. McEnroe, c'était un des meilleurs joueurs du monde. Il était numéro 1 en double, il était 3-4 en simple. Donc voilà, il fallait le battre.
C'était quoi votre complémentarité avec Perez?
Perez, il retournait, il ne ratait pas un retour. Il me donnait la possibilité de prendre des initiatives au filet. Et puis, c'était ça, on se complétait comme ça. Moi, mon retour, c'était pas mon point fort, c'était surtout le service. Lui, c'était surtout le retour. Donc, on se complétait.
Okay.
Lui, son service, c'était pourri. Voilà. Chaque fois qu'il voulait faire un ace, il me tapait la balle. Moi, j'étais au filet, il me tapait la balle sur la tête ou sur le dos. C'était incroyable. Et puis, il rigolait, il était mort de rire.
Tu le travaillais beaucoup, le service, pour trouver les zones?
Non. Non, je travaillais pas. Je n'ai pas vraiment travaillé énormément. Non, comme je t'ai dit, je m'entraînais une heure et demie le matin, une heure l'après-midi, c'est tout ce que je faisais. Et je faisais un truc. J'avais pas quelqu'un qui me dise qu'est-ce que tu dois faire. Je le faisais ça tout seul. Et puis je demandais aux joueurs, tu veux t'entraîner avec moi? Il y en avait des fois que les mecs disaient oui, et quand ils me disaient non, j'allais contre le mur. Donc voilà, je m'entraînais comme ça.
C'est quoi pour toi la définition de la vraie richesse?
La vraie richesse, c'est d'avoir du respect, respecter les gens, d'avoir le respect des gens. Voilà, quand tu respectes les gens, c'est en première, c'est toi-même que tu respectes. Ça, c'est une richesse, c'est une richesse. C'est pas richesse. Oui, c'est bien d'avoir l'argent, d'avoir des milliards, mais tu peux être heureux sans avoir des milliards. C'est, je sais pas, richesse, c'est pas forcément l'argent.
Tu participes à combien de matchs exhibition encore aujourd'hui, chaque année?
Pas jusqu'à maintenant, jusqu'à cette année, ça va être compliqué, hein, avec ce confinement, mais j'en faisais une vingtaine jusqu'à genre l'année dernière, une vingtaine d'exhibitions.
Le lieu sur lequel tu préfères te rendre pour jouer, c'est lequel?
J'adore tous les cours de tennis, c'est mon endroit préféré. Voilà. On me dit souvent, c'est quel est ton tournoi préféré, quel est ton cours préféré. À chaque fois que je rentre sur un cours de tennis où il y a du public, je suis heureux. Rentrer sur un cours vide, moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais quand je rentre sur un cours de tennis, voilà, qu'il y a du public et que c'est plein, j'adore. Là, je suis dans mon jardin et je suis sûr que je peux leur faire passer une heure sympa, quoi. Mais c'est vrai que quand tu joues sur les grands cours, comme cours central à Wimbledon ou à Roland-Garros ou voilà, ou Australie, et, ben, et que c'est plein, c'est autre chose.
Quel est le cours de tennis, pas forcément avec du public, mais au contraire perdu au milieu de la nature, le plus improbable sur lequel tu es joué? Un cours au bord de l'océan ou au milieu de la jungle? Est-ce qu'il y en a un comme ça que tu as déjà découvert?
On a joué dans les arènes de Nîmes, par exemple. Ah, c'est pas très évident. Hein. J'ai joué sur une place à Namur, dans la ville de Namur en Belgique, sur une place en pleine ville. J'ai joué sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Il y a plein d'endroits. J'ai joué dans les patinages, dans les dans le salon de patinage. Il y a un endroit que j'adore jouer, c'est Royal Albert Hall de Londres. C'est exceptionnel. C'est un théâtre, c'est fabuleux. Ça fait 170 ans que le truc il est là. T'as des plus grands chanteurs, plus grandes danseuses, plus grands chanteurs d'opéra, des gens qui ont fait des performances là-bas. C'est exceptionnel. Et quand moi, cette année, si tout se passe bien, je retourne pour la 24e année d'affilée. Wow. C'est quelque chose.
Avec qui tu joues cette année là-bas?
J'ai joué avec tous les joueurs là-bas. J'ai joué avec Emerson, avec Tony Roche, avec Newcomb, avec Becker, avec McEnroe, avec Borg, avec Connors, avec tous ces mecs-là, avec Andy Murray, avec Henman, c'est en décembre.
D'accord. Je vois sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, tu as 65 000 personnes. Tu as une chaîne YouTube avec une vidéo qui a un peu plus de 2 millions de vues. Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux?
Je le fais, je fais pas beaucoup. Je fais. Il y a quelqu'un qui me conseille, qui m'aide. Et je le fais. Mais je réponds pas à tout le monde. Je suis pas non plus fou à être là-bas tout le temps. Mais si tu vas sur le truc de Wimbledon, tu as des trucs où il y a 30 millions. Hein. Sur le Google, tu as un truc, il y a 10 millions de personnes sur le. Qui m'ont vu hein, sur YouTube. Hein, j'ai des trucs qui ont été vus par 10 millions et 8 millions. Sur le site de Wimbledon, il y a un truc, il y a 30 millions.
Et tu postes les photos toi-même ou tu as quelqu'un qui le fait pour toi?
Pourquoi tu me demandes ça?
Parce que c'est intéressant, je trouve, de savoir. C'est quand même un outil.
Je le fais, mais j'ai quelqu'un qui me conseille.
D'accord. Ok, voilà. C'est génial. C'est génial que tu maîtrises l'outil, quoi. Combien de temps tu passes chaque jour sur ces réseaux?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. Ok.
Pas beaucoup.
On pose souvent la question de l'après carrière aux joueurs de tennis, mais toi, j'ai l'impression que ton après carrière, on se demande de quoi elle va bien pouvoir être. Tu as une idée de ce que tu as envie de faire quand tu pourras vraiment plus
après ma carrière, je suis mort, quoi. C'est fini. J'ai 60. Voilà, si je joue encore 2 ou 3 ans, il ne me reste pas beaucoup à vivre. Hein. Donc après, je ne sais pas. Après, je vais essayer de rester dans le milieu de tennis encore 3, 4, 5 ans. Et voilà, après, voilà. Dans 4, 5 ans, je peux peut-être rester tranquille. Ça fait presque 60 ans que je cours. Hein. Ouais. Ramasser des balles à l'âge de 5 ans, j'étais à 5 heures du matin sur le cours. Et ça fait 60 ans, 59 ans que je travaille. Je travaillais à 5 ans, je travaillais tous les jours. À 5 heures du matin, j'étais sur le cours, tous les jours.
Wow.
Donc, voilà.
C'est quoi aujourd'hui une journée avec Mansour Bahrami? Comment ça se passe? À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu te couches? Et qu'est-ce que tu fais pendant la journée?
Bah là, en ce moment, je fais pas grand-chose. Hein. Je suis confiné. Je me réveille genre 7h30, petit déjeuner. Après, je fais un peu de gym. Je fais un petit peu des choses que j'ai jamais fait. Je fais des trucs physiques que j'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais fait ça. Et donc aujourd'hui, je le fais parce que sinon, j'ai senti les 6-7 premiers jours, je faisais rien, mes muscles ça commençait à fondre à une vitesse pas possible. Donc, je me suis pris en main Et là, je fais, bah, je descends, je remonte l'escalier, par exemple. J'ai quelques élastiques avec lesquels je fais un peu de musculation pour garder mes jambes le bas de corps et le haut de corps. Je fais des pompes et des abdos pour rester en forme une fois que le confinement est fini, pour reprendre plus facilement.
Tu lis l'équipe, tu t'intéresses à l'actualité du sport en règle générale ou même pas?
Moyennement.
T'as toujours porté la moustache, Mansour?
Oui, je l'ai rasé deux fois dans ma vie.
À partir de quel âge t'as commencé à l'avoir?
J'avais, 17 ans. 17-18 ans, je l'avais. On a battu l'équipe de France en Coupe Galea en 1975 à Marianské Lázně en Tchécoslovaquie. Ouais. Et on est arrivé en finale et les Français, ils ont dit « Oui, ils ont amené un gars qui avait 40 ans, il avait la moustache », en parlant de moi, en 75. Donc, je dois avoir 100 ans maintenant. Donc, voilà. On a battu, ils étaient mauvaise foi, et voilà, mauvais joueur, ils ont dit, oui, le mec, il avait la moustache et tout. Mais j'avais 19 ans. Mais je l'avais déjà, quoi.
On doit plus te reconnaître dans la rue quand t'as plus la moustache.
Je l'ai rasé deux fois. Une fois pour, c'était il y a 25 ans. Yannick, avec les enfants de la terre, on avait le maillot de Zidane, il y avait des maillots de footballeur, les raquettes des joueurs au tennis. Et chacun mettait leur truc pour vente aux enchères pour les enfants de la terre. Et puis moi, je dis, ils m'ont dit, Mansour, qu'est-ce que vous voulez? Raquettes, chemises, chaussures, pas de problème, dites-moi. Et quelqu'un a lancé ta moustache. Je dis, ma moustache, il n'y a pas de problème. Je le mets, mise à prix, 50 000 francs. Pour moins de ça, je le rase pas. Bah, ils ont payé 100 000 francs et je l'ai rasé. Je sais pas, ils l'ont pris dans un sac plastique, je sais pas ce qu'ils m'ont rasé sur le champ, mais ils ont payé 100 000. Et ben, je rasais pour les enfants la terre. J'étais content de le faire. Une deuxième fois, on était champion de France par équipe. Et donc, pour fêter ça, mon club, tennis club de Perreux, ils ont fait une soirée où tous les hommes devraient être habillés en femmes. Ben, moi, je jouais les jeux et puis voilà, j'ai rasé et c'était un truc fabuleux. On était morts de rire. C'était vraiment sympa.
Et 15 000 euros la moustache, elle a de la valeur. Hein. Ta femme t'a reconnu? Ta femme t'aime bien sans moustache?
Non, ma femme, mes enfants et ma femme, ils me disent il faut laisser la moustache. Donc, je laisse. Ils sont très habitués. Donc, je le garde.
Ça fait combien de temps que tu es avec Lacoste, Mansour?
Ça fait... 25 ans à peu près, je suis à Lacoste.
Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de vêtements que tu as reçue de Lacoste?
Oui, c'était en 82 ou 81. Lacoste, c'était un rêve d'enfance pour moi. Je me souviens quand j'étais petit, à l'époque, il y avait Fred Perry et Lacoste.
Ouais.
Et je suis allé trouver dans une poubelle un gars qui avait jeté une chemise, mais pourrie, il était vraiment mort dans la poubelle. Et je l'ai récupéré, j'ai enlevé le crocodile, je l'ai décousu et je l'ai mis sur un t-shirt. Je l'ai cousu moi-même sur un t-shirt chinois, c'était 2 francs, le truc on a acheté 2 francs. Je l'ai cousu moi-même, je suis arrivé le lendemain, j'avais, je sais pas, 8-9 ans, je suis arrivé dans le club. En disant, voilà, j'ai mis de Lacoste et tout. Et les copains, ils me disaient, ouais, bah, tu l'as récupéré dans la poubelle, on sait, ça, c'est pas un vrai Lacoste et tout. Mais c'était la première fois que j'ai eu le crocodile, c'était une chemise que j'avais cousue moi-même.
Et t'as ressenti quoi lorsque t'as reçu pour la première fois des vrais vêtements Lacoste?
Ah, j'étais fier. J'étais vraiment fier de porter des vrais Lacoste où on me l'avait fait un contrat et que je pouvais, voilà, j'étais devenu ambassadeur de Lacoste, donc c'est une très belle marque, et c'est fabuleux de représenter Lacoste, quoi.
Comment s'est fait votre rapprochement?
C'est moi qui est allé les voir. J'ai vu Jean-Claude Fauvet qui était chez Lacoste en ce moment-là. Et bah, on s'était vu et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien. Bon, il m'a dit, viens de me voir et tout. Et ça s'est fait comme ça.
Pour terminer l'interview, Mansour, j'ai 4 ou 5 questions qui élargissent un petit peu le sujet du tennis. Ouais. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour être une meilleure personne?
J'essaie de quand je peux. Je respecte les gens. Je parle avec des gens avec du respect. En respectant des gens, tu respectes toi-même d'abord. Et j'essaie de ne pas tricher. Et voilà, je parle avec des gens avec beaucoup de respect.
Quel est le plat que tu cuisines le mieux?
Je peux faire le plat que je cuisine le mieux. Je peux faire des œufs sur plat, quoi. Voilà, je peux faire une omelette. Voilà. Je suis nul à la cuisine. Ma femme cuisine très bien.
Voilà. Ah, très bien, t'as de la chance.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie?
Les Misérables.
Quel message t'as gardé des Misérables?
Bah, le message de générosité, d'aider, quand on aide un jour, le jour où on a besoin, c'est peut-être plus facile d'être aidé aussi.
Un film que t'aimes particulièrement?
Comment ça s'appelait? One Flew Over Cuckoo's Nest. C'est...
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Voilà. Ça, c'est toujours ça qui me vient. Voilà. Okay. C'était un film qui m'avait marqué et quand je l'ai vu il y a 45 ans.
La période de ta vie où tu as le plus douté?
Bah, c'était quand j'étais dans les rues à Paris où j'avais nulle part à dormir et que j'avais pas grand chose à manger. Je ne savais pas où j'allais. Mon seul, j'étais content d'être célibataire, d'être seul, d'être jeune. J'avais 24 ans. Donc, je me disais, je peux me débrouiller, quoi. Voilà, c'était la seule chose. Mais c'était le seul moment aussi où j'avais des doutes. Je ne voulais plus retourner en Iran, mais je n'étais pas sûr. Est-ce que je pourrais rester? C'était là.
Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à Mansour qui doutait à cette époque-là pour le rassurer?
Je lui dirais, t'as bien fait d'insister, de ne pas retourner. T'as fait les bons choix. Et, tu sais, quand je suis arrivé à Nice, 2 heures après avoir été à Nice, j'avais perdu tout mon argent. Je pense que si ça aurait été arrivé aujourd'hui, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, voilà, c'est. Je dirais, il faut foncer, il faut pas regarder en arrière, quoi. Quand les gens me disent, si tu regrettes, mais ça ne sert à rien de regretter. C'est passé, c'est derrière moi. Il faut regarder devant et avancer. Si tu marches, tu arrives à quelque chose. Si tu restes assis, tu n'arriveras jamais.
Tu as joué à quoi au casino d'ailleurs?
Blackjack.
Qui est-ce que tu nous recommandes de contacter? Une personne vraiment intéressante avec qui on pourrait parler tennis? Une personne française et que tu pourrais nous aider à avoir?
Non, essayer de trouver Yannick. Tout le monde veut parler avec lui. Hein, donc, je pense qu'il a des belles histoires. Pour moi, c'est lui.
Ok. Mais tu ne peux pas forcément nous aider à l'avoir?
Malheureusement, je ne peux pas, non.
Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mansour, pour terminer?
La santé. Quand on s'en débarrasse de cette saloperie de virus de corona, et moi je vais surtout pour le monde entier, je vais la paix et la prospérité, et voilà, pour tout le monde, pas seulement pour moi. Moi j'aimerais d'avoir la paix dans le monde. C'est tout ce que je souhaite.
Yes. Tu retournes en Iran de temps en temps?
Oui, je retourne tous les 2 ans. Je vais là-bas normalement pour 2, maximum 3 jours. Mais là, je suis allé le 7 février au 21 février. Je suis allé avec ma femme, mon fils, Antoine, voilà, et sa fiancée. Et nous sommes restés pour la première fois depuis que j'ai quitté l'Iran. Pour la première fois, je suis resté 2 semaines. Donc voilà, c'est un pays vraiment fabuleux. J'ai visité des endroits où je connaissais pas, et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, c'est la gentillesse des gens. Et j'étais avec mon fils des endroits où tu sens là depuis 4-5 000 ans. Il me dit, papa, mais c'est incroyable, je suis en train de toucher un truc qui est là depuis 6 000 ans, 5 000 ans. Eh bien, c'est fabuleux. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et je ne le connaissais pas, en fait.
Tu te sens comme à la maison, là-bas?
Non. Non, je ne me sens pas vraiment... J'ai rien à faire là-bas. Si ce n'était pas pour ma famille, je ne retournerais pas. J'adore l'Iran, je suis fier d'être iranien, j'adore la France, je suis fier d'être français aussi. Mais ma vie est ici. L'Iran, c'est derrière. Moi, j'aime l'Iran, je veux que les gens soient heureux, et ma famille aussi, et tous mes compatriotes iraniens. Voilà, mais je n'ai rien à faire là-bas. Moi, ma vie est ici, mon pays est ici.
Merci beaucoup, Mansour, d'avoir pris le temps. Merci, merci, merci.
Merci, Max.
Ciao, prends soin de toi. Ciao.
Ciao.
Merci au tout meilleur d'être resté avec Mansour et moi jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a autant régalé que j'ai pris du plaisir à vous le concocter. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Dites-nous aussi en commentaire sur Apple Podcast ce que vous avez pensé de cet échange. C'est la plateforme numéro 1 et recevoir des notes 5 étoiles nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Un énorme merci à Edouard et Erwan qui nous ont soutenus ces derniers jours via la plateforme Tipeee. Parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est lui aussi dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à envoyer un message à Mansour pour lui dire si vous avez aimé son récit et à taguer Tennis Légende en story Instagram au moment où vous écoutez nos épisodes. Par avance, un grand merci pour votre coup de pouce sur le sondage et pour vos bonnes ondes de manière générale. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et bon début de saison 2021. À très vite les légendes. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.